Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches, à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Philippe Jarouski. Bonjour Philippe Jarouski.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
Philippe Jarouski, vous êtes chanteur lyrique, contre-ténor, musicien de grand talent. Cette année, vous fêtez vos 20 ans de carrière. Vous avez travaillé comme un fou, non, pour devenir le musicien que vous êtes aujourd'hui. Travail acharné.
Alors, j'ai travaillé beaucoup, comme je crois tous les musiciens classiques, mais je crois que c'est l'avantage quand on est musicien, c'est que des fois, on n'a pas l'impression de travailler, tout simplement, parce qu'on fait de la musique.
Et le plaisir.
C'est un beau cadeau dans la vie.
C'est le plaisir de la musique.
C'est le plaisir. Alors, évidemment, il y a des moments de découragement, parce que avant d'être chanteur, j'étais musicien, violoniste, pianiste. Alors, des fois, on se décourage parce qu'on n'arrive pas à jouer un morceau, on n'arrive pas à jouer aussi bien qu'on voudrait, mais c'est une très belle école de la vie aussi.
Alors on dit de vous que vous êtes le gendre idéal, la voix des anges ou encore Mr Bean. Alors moi c'est Mr Bean évidemment qui m'intéresse.
Bien sûr. Et on me le dit souvent.
C'est vrai ?
Oui,
mais
oui,
alors pourquoi ?
Oui. Je sais pas, le sourire. On dit que j'ai un sourire entre Mr Bean et le Joker.
Ouais.
Je ne sais pas. Et puis c'est vrai que, notamment d'ailleurs, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Larpe Jatta et Christina Pluart, j'ai découvert sur scène tout un aspect, on va dire un peu plus comique, qui s'est révélé plutôt, on va dire, vers la trentaine.
Vous riez de vous ?
Oui, une forme d'autodérision. Et je crois que quand on est contre-ténor, quand on a cette voix aiguë d'homme, il faut avoir une petite part d'autodérision.
Alors Philippe Jarouski, vous avez choisi comme journée particulière le 3 février 2000. Ce jour-là, vous chantiez pour la première fois sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le rôle de Néron dans le couronnement de Poppée de Monteverdi sous la direction de Jean-Claude Malgoire. Philippe Jarouski, c'était le duo donc à la fin de l'opéra du couronnement de Poppée. On vous y entend avec Nouria Rial. En 2000, vous chantiez avec Sandrine Rondeau.
Exactement,
c'était elle
qui
tenait le rôle de Poppée. Quel jeune homme vous étiez en 2000 ? Quel âge vous aviez,
jeune homme,
Philippe Jarouski ?
J'avais 21 ans. J'allais sur mes 22 et j'étais un garçon très sérieux, j'étais encore un peu violoniste, plutôt réservé, j'aimais bien passer inaperçu. Et quand j'ai dû travailler, c'était le premier opéra que j'ai fait sur scène, que j'ai dû travailler ce rôle de Néron, cet empereur fou, avec des scènes aussi très sensuelles, avec Sandrine sur scène, il a fallu que je me fasse vraiment violence.
Vous n'étiez pas acteur ?
Pas du tout, pas du tout. J'étais d'ailleurs très peu sportif, je le suis toujours pas du tout, et du coup la corporalité évidemment compte beaucoup à l'opéra.
Bien sûr.
Et du coup, je me rappelle, le metteur en scène de l'opéra avait dit à Jean-Claude Malgoire à l'époque que je savais pas mettre un pied devant l'autre, et Jean-Claude avait répondu « Ne t'inquiète pas, le petit va apprendre ».
Et il a appris, le petit.
Et j'ai beaucoup appris en 4 mois de tournée, effectivement, de pouvoir faire ces 3 opéras de Monteverdi en tournée avec une troupe de magnifiques chanteurs. Ça m'a appris énormément, et ça m'a tout de suite fait comprendre ce qui était réellement le métier de chanteur.
Oui, parce que vous ne l'aviez pas appris, parce que vous étiez encore étudiant au conservatoire.
J'étais encore étudiant au CRR de Paris, et évidemment, je travaillais beaucoup les différents styles, les langues, l'allemand, l'italien, mais vraiment la théâtralité, je crois que c'est quelque chose qui s'apprend vraiment, en tout cas, en grande majorité, sur le terrain.
Alors, il y avait eu des répétitions, hein, de longues répétitions pour vous préparer justement à votre rôle, pour que tout le monde se prépare. Est-ce que vous vous souvenez que les caméras de France 2 étaient venues ?
Alors, je me souviens vaguement parce que je crois avoir vu quelques images de moi et ça, il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait un petit choc.
Alors, vous allez vous entendre.
Et nous allons terminer ce rendez-vous en vous faisant profiter d'une autre découverte dans le couronnement de Popée. C'est Philippe Jaroussky. Je crois que Jaroussky, ça doit vouloir dire « je suis russe ». Il a 20 ans, c'est un tout jeune chanteur. Il fait partie des bébés, entre guillemets, de Jean-Claude Malgoire. Il travaille avec lui. Vous allez voir que l'atmosphère des répétitions était formidablement sympathique. On le retrouve tout de suite.
Philippe Jaroussky, ce qui m'amuse, c'est Ève Ruggieri qui dit le bébé Jaroussky. Elle parle de vous comme d'un enfant.
Oui, c'est amusant parce que j'ai retrouvé Ève Ruggieri pour l'inauguration de ma statue à Gréva.
Ouais.
Elle est venue parler merveilleusement. Et c'est vrai qu'elle me connaît depuis mes tout débuts. Et ce que j'entends dans ce qu'on vient d'entendre, malgré tout, j'ai beaucoup de tendresse pour cette voix de mes 20 ans parce que c'était une voix très instinctive. J'avais pas encore beaucoup travaillé ma technique vocale, mais ça sortait, on va dire, presque tout seul.
Naturellement.
Naturellement. Et c'est ça qui a, je crois, bouleversé Jean-Claude Malgoire ou Gérard Laine au début, parce qu'ils comprenaient pas trop comment je faisais.
Et vous non plus d'ailleurs.
Non, je crois pas. Je savais pas d'où ça sortait tout ça.
Vous n'aviez pas peur de cette voix qui sortait de vous? Un peu peur quand même?
Alors non, à ce moment-là, à mes 20 ans, c'était du, malgré la pression, malgré le, c'était du pur plaisir. C'est-à-dire que c'était vraiment une révélation pour moi de chanter. J'étais juste dans le plaisir de chanter. C'est d'ailleurs pour ça probablement que ça fonctionnait.
Et que ça a marché.
Voilà. Après, il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments plus difficiles au bout de, disons vers l'âge de 23-24 ans où je me suis posé des vraies questions parce que je commençais à fatiguer, à avoir des petits problèmes de voix. Mais vraiment, à 20 ans, c'était du plaisir.
Mais fallait être un peu inconscient pour se balancer comme ça sur scène avec un tel rôle si jeune, avec 2 ans de chant seulement.
Je pense qu'il fallait être complètement inconscient. D'ailleurs, j'ai rechanté ce rôle 10 ans plus tard avec William Christie.
Ouais.
Et je me suis rendu compte à quel point j'avais été inconscient 10 ans avant. Parce que c'est un rôle qui demande vraiment des qualités physiques et techniques redoutables.
Quand vous rentrez sur scène le 3 février 2000, vous êtes dans quel état, d'esprit ?
Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que malgré la pression, malgré la difficulté, j'ai jamais été paralysé par le trac. Je me rappelle vaguement peur d'oublier des répliques. C'était la première fois que je chantais un rôle aussi long par cœur sur scène. Et puis, j'étais accompagné de cette magnifique soprano, Sandrine Rondeau, qui était très bienveillante avec moi, qui avait plus d'expérience que moi, et qui m'a porté tout au long de l'opéra. Et c'est vrai que quand j'ai chanté ce duo qu'on a entendu au début, et que le rideau s'est refermé sur nous deux, je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie, c'est décharge d'adrénaline, je touchais plus terre, j'étais en apesanteur.
Et vous ne saviez pas et vous n'imaginiez pas, Philippe Jaroussky, que 20 ans plus tard, c'est avec Mathieu Chédid que vous chanterez.
C'est tard, t'en souviens-tu, ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. C'est air, t'en souviens-tu, l'odeur d'un matin nu, d'un mari dévêtu. Mais pars et ne te retourne pas, chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va, et trouvera. Cet air, t'en souviens-tu, se perdre dans les rues, dans un son continu. Cet air, t'en souviens-tu, souffler le soir, souffler le soir vers ceux qui ne sont plus. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va, va, et tu le retrouveras. La douceur de sa main. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
Philippe Jaroussky, c'était du plaisir aussi de travailler avec Mathieu Chédid.
Oui, et j'espère, comme on le dit dans la chanson, le retrouver prochainement. oui, c'était un vrai plaisir. C'est un très très bon musicien, très posé, très calme, qui sait ce qu'il veut entendre. Et c'était une très belle rencontre. Ça faisait plusieurs années qu'on essayait de trouver une façon de travailler ensemble. Et c'est lui qui m'a proposé de faire une courte apparition dans son album L'Amomalie.
Zoé Varier, une journée particulière sur France Inter.
Alors jusqu'à 15h, une heure d'introspection, Philippe Jaroussky, hein, puisque vous fêtez ses 20 ans de carrière. Votre journée particulière, c'est donc le 3 février 2000, c'est là où tout commence pour vous. C'est l'année où vous prenez votre envol, Philippe Jaroussky. On va vous entendre dans Monteverdi, mais on va vous entendre dans d'autres opéras.
Tout s'enchaîne assez vite. Disons que ça commence un tout petit peu avant, vers septembre 99, où je fais mon premier récital à Grévin, notamment. Et puis j'ai ce contrat, justement, de 4 mois de tournée avec Jean-Claude Malouart en 2000, que je découvre, comme on disait, le 3 février, le réel métier d'un chanteur classique d'opéra. Et puis, beaucoup d'autres contrats avec Jean-Claude Malouart, des choses qui s'enchaînent, des débuts au disque.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance avec le recul. On en parlait un petit peu en micro. Je me disais que je pense que si je commençais ma carrière maintenant, en février 2020...
Ça serait plus difficile.
Ça serait peut-être plus difficile, oui. J'aurais peut-être pas autant d'opportunités aussi vite.
Pourtant, rien ne vous prédestinait, Philippe Jaroussky, à une carrière musicale. Vous n'avez pas grandi dans une famille de musiciens. Ça, il faut toujours le redire et le répéter. Hein. Vos parents étaient des scientifiques.
Oui,
de
oui des cartésiens, des scientifiques. Et ils n'avaient pas prévu d'avoir un fils artiste.
Non.
Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. J'ai même fait de la danse classique.
Ah oui, ça je savais pas. Mais le dessin, ça a été une passion dévorante.
Ah, dévorante. Je passais mon temps à dessiner. C'était assez fulgurant, un peu comme la musique. On savait pas d'où ça sortait. Je reproduisais les tableaux de Van Gogh, de Franz Hals, de Picasso.
C'est vrai, comme ça.
Et j'avais une détermination énorme. C'est-à-dire que j'aimais vaincre les obstacles. J'avais aucune technique de peinture. J'essayais à tout prix. Je sais pas d'où ça vient. Alors après, cette opiniâtreté, je pense que je l'ai eue en musique.
Ouais.
Mais malheureusement, quand j'ai commencé la musique vers l'âge de 10-11 ans, On m'a dit tout de suite que pour le violon, le piano, j'ai commencé à 15 ans le piano, ce qui est encore plus tard. Mais voilà, j'étais pas très très doué digitalement, on va dire.
Alors, la personne qui vous a fait entrer dans le monde de la musique, c'est un de vos professeurs,
oui,
en sixième.
Voilà, Gérard Bertram, et qui était un prof, qui, je dis qui était parce qu'il a, pris sa retraite l'année dernière.
Ah oui.
Mais c'était un prof, un jeune professeur, très dynamique. Faut s'imaginer qu'on était à l'époque en pleine Bruelmania. Et on courait à cette petite heure de musique. Il nous faisait écrire des chansons. On faisait des spectacles entiers. Et il m'a écrit une chanson qui s'appelle Le Petit Prince. Et c'est lui qui a encouragé vraiment mes parents. Il a dit, si on a un qui doit faire de la musique, c'est Philippe.
Il regarde le monde avec ses yeux d'enfant. Et il voit qu'il tourne un peu moins bien qu'avant. Et partout sur la terre, il y a tant de choses à faire. L'ombre devient plus forte que la lumière.
C'est touchant, Philippe Jaroussky. C'est votre voix d'enfant. Vous avez quel âge ?
12 ans et demi, 13 ans, et je suis au bord de la mue. Je crois que j'ai dû d'ailleurs rechanter cette chanson six mois après, et je ne pouvais plus.
Vous ne pouviez plus parce que votre voix...
La voix était cassée, on était en pleine mue, ouais.
C'est le seul enregistrement qu'on a de votre voix d'enfant, qui a été un enregistrement au caméscope, qu'on peut retrouver en partie...
Oui, 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 en partie sur YouTube.
En partie sur YouTube. Mais en fait, vous aviez déjà gagné avant ça un concours de chant.
Oui, bah en sixième, tout de suite, avec Les Démons de Minuit.
C'est trop drôle ça, Les Démons de Minuit, vous aimez ?
Ah oui, oui, j'adorais et je l'avais appris très sérieusement. Il y a des photos d'ailleurs de ce concours, on voit.
Je vous ai pas vu alors, comment vous êtes ?
Tout sage, avec pantalon remonté jusqu'aux épaules presque. Et puis bah, j'ai pris le micro, et j'ai chanté et ça m'a plu tout de suite, notamment d'être sur scène, et ça c'était nouveau. Et après, c'est vrai que cette rencontre a été déterminante. Et
du professeur de musique, vous
totalement.
Voulez
dire, ouais. Et c'est vrai que presque 20 ans après, ça m'est revenu un peu comme un boomerang. Et l'idée de l'académie, notamment,
elle
vient justement de mon parcours, de mon histoire personnelle.
C'est-à-dire quelqu'un qui vous a donné la chance de découvrir,
la musique.
Alors que vous n'étiez pas de ce milieu,
exactement.
Vous étiez d'un milieu modeste.
Exactement, et de détecter ce talent. Qu'on n'avait pas forcément, auquel on n'avait pas forcément pensé parce que j'avais aussi le dessin à côté.
Et puis le violon, parce que vous choisissez le violon quand vous entrez au conservatoire,
oui.
Sur les conseils de ce professeur de musique. Vos parents vous inscrivent au conservatoire.
Voilà, et là, à ce moment-là, je teste quatre instruments parce qu'au conservatoire de Sartrouville, j'avais la possibilité la première année, au lieu de faire que du solfège, de tester.
Des instruments.
Évidemment, je choisis le plus dur.
Bien sûr, le violon. Et vous êtes doué aussi.
Oui, c'est-à-dire que au départ, ça va assez vite, c'est-à-dire que je grince très peu. Je me mets à jouer juste assez vite. C'est plutôt, on va dire, au bout de 5-6 ans que, voilà, quand je décide de faire, je sais pas d'ailleurs à l'époque, quand je me lance dans cette aventure de décider de faire la musique à 17 ans et demi après mon bac, c'est là que je découvre que j'ai pas mal de retard technique et que je vais avoir du mal à devenir un violoniste soliste.
Ça, je me fais une raison.
J'aurais été violoniste, j'aurais adoré faire partie d'un quatuor.
Bah oui, j'imagine.
C'était faire ça que je me serais dirigé. Mais je rentre après au conservatoire de Versailles dans la classe de Marianne Piketty. Et là, elle me dit, mon coco, va falloir bosser parce que il y a du boulot.
Et c'est elle qui disait que vous aviez les doigts palmés.
Alors déjà, ma professeure, alors dans les doigts palmés, il y a aussi cette histoire que j'ai très peu d'indépendance entre le quatrième et le cinquième doigt. C'est-à-dire par exemple, je peux pas les coller l'un à l'autre. J'ai un cinquième doigt qui est très petit. Et que ça soit au piano ou au violon, je me trouve confronté à des difficultés que d'autres n'ont pas.
De main.
Voilà. Et on me dit en permanence, tu es très bon musicien, mais tu n'es pas très virtuose.
Alors, vous avez développé une passion pour un musicien, un violoniste israélien ?
Oui. Très fasciné tout de suite par Itzhak Perlman, évidemment, qui est un des plus grands violonistes de ce siècle. Évidemment, beaucoup de gens d'ailleurs qui ne connaissent pas forcément trop la musique classique l'ont entendu, puisque c'est lui qui joue dans la liste de Schindler, notamment. Ouais. C'est une pièce qui lui a été composée pour lui. Et je vais le voir en concert. Alors, il faut savoir que Isaac Perlman a été atteint de la polio quand il était enfant, donc il se
handicapé.
Déplace très difficilement, mais dès qu'il prend son violon, c'est évidemment un des plus grands virtuoses qu'on ait jamais eu. C'est extraordinaire et ça me rappelle une phrase qu'il dit souvent d'ailleurs, qui était le titre d'un des reportages qui lui était dédié. I play every note. C'est-à-dire que c'est ça, on a l'impression que ça va même pas vite parce qu'il joue chaque note.
Et ça c'est un caprice de Paganini qu'on entend, le cinquième.
Le cinquième, un des plus difficiles, oui.
Et c'est le premier disque que vous vous êtes acheté, Philippe
c'est
Jarouski.
C'est le premier disque que ma mère m'achète, je crois même, et c'est un choc. C'est un choc. Là, je suis évidemment... dans le bain du violon, je travaille mon violon autant que je peux et je découvre tout le répertoire que j'écoute encore beaucoup parce que comme je dis souvent, j'ai beau être chanteur, on reste toujours un peu le musicien. Je reste toujours violoniste parce que c'est par le violon que j'ai appris la musique, j'ai appris le solfège, que j'ai appris comment construire une phrase musicale. Donc je reste quelque part un violoniste.
Vous avez été triste quand vous avez compris que non, vous ne feriez pas carrière au violon, ou c'était trop de douleur, trop de souffrance de travailler votre violon?
Ça a été une souffrance. Quand j'ai passé mon prix de violon au Conservatoire de Versailles, je commençais déjà à chanter. J'avais déjà fait l'opéra en février 2020. Et je sentais que c'était difficile. Je me rappelle, j'avais des auditions de gamme, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse des gammes entières, sans sixte, en dixième, et on passait tous l'un après l'autre. On avait l'impression d'être un peu à l'abattoir. Et cette façon de faire la musique qui est parfois nécessaire, parce qu'évidemment pour jouer un caprice comme on vient d'entendre, il faut beaucoup travailler. Mais ça me plaisait pas. Et au bout d'un moment, j'avoue aussi que je commençais à être un peu triste de devoir passer 5, 6, 7 heures tout seul dans ma chambre à travailler mon instrument.
Vous aviez envie des autres et de chanter avec les autres.
Voilà, donc à l'époque d'ailleurs je faisais partie d'un quatuor, j'aimais beaucoup la musique de chambre, mais effectivement le chant m'a tout de suite beaucoup plus plu, parce qu'on m'a aussi tout de suite beaucoup plus parlé de mon corps. Et ça, ça a été une vraie révolution pour moi.
C'est une révolution, et puis c'est vrai, c'est un fait. C'est-à-dire que quand on chante, c'est un plaisir physique, c'est jubilatoire.
Il y a aussi quelque chose de moins... l'approche technique est beaucoup plus... imaginaire, parce qu'on doit développer l'imaginaire, parce qu'on ne voit pas son instrument, on ne voit pas les cordes vocales, et donc on doit travailler vraiment dans ses sensations corporelles. Et effectivement, malheureusement, j'avais l'impression qu'aux instruments, j'avais pris des défauts, des tensions physiques qui étaient irréversibles.
Alors qu'en chant, pas du tout.
En chant, c'était un terrain totalement vierge, et j'ai pu reconstruire quelque chose qui était finalement beaucoup plus connecté avec qui j'étais.
Et tout de suite, vous avez eu votre voix naturelle de contre-ténor.
Oui, ça a été assez rapide. Je me rappelle, ma professeure Nicole Fallien, sur le premier cours, j'avais 18 ans, ou 17 ans et demi, 18, à peine 18, je viens la voir, je lui chante un morceau, elle teste les deux voix, baryton, contre-ténor, elle dit bon, il n'y a pas photo, t'es beaucoup plus à l'aise dans l'aigu. Et puis je lui chante un extrait du Stabat Mater de Pergolèse, justement, et elle me dit la voix est petite, je ne sais pas si tu vas vraiment pouvoir devenir contre-ténor. Et il paraît que j'ai répondu faites-moi confiance, moi je sais, je serai contre-ténor. Donc quelque part, il y avait une petite voix aussi qui me disait, qui en tout cas imaginait ce que je pouvais faire avec le travail.
Thank you.
Philippe Jarouski, magnifique ce qu'on est en train d'entendre. Vivaldi.
Oui, alors c'est le compositeur que j'ai, je crois, le plus chanté et qui m'a le plus porté chance.
Oui, qui vous a ouvert les portes.
Énormément. Je suis aussi apparu, on va dire, dans le monde lyrique avec la redécouverte de tout le répertoire opératique de Vivaldi qu'on connaissait pas. Alors, évidemment, on connaissait Vivaldi comme le compositeur de concerto pour violon des quatre saisons. Et on a redécouvert à ce moment-là, avec l'édition Vivaldi et puis le fameux album de Cecilia Bartoli sur les airs de Vivaldi, toute cette musique vocale. Je l'ai énormément chantée, notamment avec Jean-Christophe Spinozzi, l'ensemble Mathéus, avec mon ensemble, qu'on entendait là, Arta Cercé. Et il y a quelque chose d'inexprimable dans cette façon de... C'est un sorcier, on pourrait dire, Vivaldi. C'est un prêtre, mais c'est aussi un sorcier.
Pourquoi ?
C'est quelqu'un qui avait un besoin, je crois, énormément de plaire. Et qui s'est battu toute sa vie. C'est ça que je trouve fascinant dans les compositeurs baroques et d'ailleurs souvent classiques et après, c'est qu'on composait pour survivre presque. Donc il fallait à tout prix qu'il ait du succès. Et il y a des recettes chez Vivaldi, d'ailleurs qu'on lui reprochait de toujours faire un peu les mêmes recettes, mais il y a souvent une structure harmonique très claire. Alors ces airs-là sont formidables aussi pour un chanteur parce que vous avez un accompagnement qui est très très léger, très rythmique et une mélodie qui flotte au-dessus comme ça, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chanter. Et d'ailleurs, j'ai beau passer mon temps à chanter beaucoup d'autres choses, beaucoup de gens me disent « quand est-ce que tu rechantes Vivaldi ?»
Voilà, et Vivaldi, vous avez lu 2 victoires de la musique, hein, avec l'ensemble Mathéus de Jean-Christophe Spinozzi, une première en 2004.
Oui.
Pour la révélation lyrique,
oui.
Une deuxième en 2007, qui fait un tabac depuis sur YouTube.
Oui, un air d'ailleurs assez proche de celui qu'on vient d'entendre, avec cette même rythmique derrière, le Vedolo con il diletto.
Voilà un artiste qui, vous allez le voir, ne se déplace jamais seul. Il est nommé dans la catégorie artiste lyrique. Il a un timbre très particulier, il a une présence très particulière. Il n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné par l'ensemble Mathéus sous la direction de l'excellent Jean-Christophe Spinozzi et qui va nous interpréter, Frédéric.
Ah ben, Vivaldi. Et là, c'est l'empereur Anastasio qui est parti au combat, mais il veut retrouver sa belle. Alors, il voudrait que ça se termine très rapidement. Mais nous avons envie que ça commence très rapidement.
Philippe. Philippe Jarouski et l'ensemble Mathéus. Philippe Jarouski.
C'était Salle Pleyel, Philippe Jarouski.
Je crois que c'est un moment, au moment où je le chante, je me rends pas compte de l'impact que ça va avoir. Mais à la fin du morceau, je sens déjà une réaction dans la salle très 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 puissante. Il y a un moment d'émotion qui se passe déjà en dehors de la télé, mais déjà dans la salle. Et c'est un morceau, effectivement, qui va être visionné énormément sur YouTube. Et au
7
départ,
7 millions de vues hein, sur oui, YouTube. Vous êtes un des premiers artistes classiques de YouTube.
Oui, parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de vidéos.
Ouais.
Donc, il y a eu un moment où, effectivement, quand on tapait Vivaldi, on tombait sur cette vidéo assez rapidement. Et donc, ça a été un ambassadeur formidable pour moi. Je pense que beaucoup de gens m'ont connu, même à l'étranger, dans le monde entier, grâce à la vidéo de cette soirée. Et notamment, Cecilia Bartoli, qui me découvre avec cette vidéo.
Ce soir-là. Cette vidéo de ce soir-là.
La vidéo de ce soir-là.
De 2007, des Victoires de la musique.
Et c'est à ce
2007.
Moment-là qu'elle décide de me rencontrer, oui.
Ah, d'accord.
Donc c'est vrai que c'est vraiment des moments clés de ma carrière, oui.
Alors, c'est un des moments de clé de votre carrière. Vous savez maintenant que quand vous êtes en concert, que quand vous faites un concert, une partie de votre public vient parce que il a vu justement cette vidéo et qu'il a été bouleversé par cet air de Vivaldi. Donc c'est aussi un air que vous reprenez souvent
mal,
en
oui.
bis lors de vos concerts.
Je l'ai un peu laissé tomber quelques années parce que moi j'aime bien changer.
Bah oui.
Mais je le reprends de temps en temps. Quand j'ai un programme Handel, Vivaldi, je le donne en bis. Mais ça m'a interpellé ce que disait Marie Drucker juste avant en me présentant, parce qu'elle dit déjà une présence particulière. Et c'est vrai que je me rends compte que surtout en récital, l'opéra c'est différent parce qu'on doit interpréter un personnage, mais en récital, c'est souvent les gens me préfèrent presque en récital parce que j'ai une façon peut-être d'être un transmetteur de musique qui est un peu particulière, c'est-à-dire que je m'oublie un peu, je dirais, et y a une forme de nonchalance sur scène chez moi quand je suis en récital. Je ne force pas les choses, j'ai l'impression. J'essaye d'être, et ça je l'ai beaucoup travaillé, je dois dire, j'essaye d'être le plus sincère et naturel possible, ce qui n'est pas toujours facile sur scène, bien entendu.
Non, j'imagine, mais c'est parce que vous êtes à votre place, Philippe Jarouski, certainement.
Oui, et puis, peut-être à ma place, et puis j'aime faire découvrir de la musique à beaucoup de gens. Là, je suis en pleine tournée Schubert. C'est un nouveau challenge pour moi.
Ben oui.
Mais c'est de la musique qui me fascine, qui me bouleverse, et c'est ça que j'ai envie de faire partager aux gens, bien entendu.
Alors, si Vivaldi vous a beaucoup apporté, il vous a pesé aussi par moments, ce Vivaldi.
Oui.
Ça vous a enfermé. Vous avez dû attendre de longues années pour toucher, par exemple, à Handel,
oui.
pour qu'on vous propose des opérations. Oui. De Handel. Alors, vous comparez Vivaldi à un excellent champagne, Handel à un grand Bordeaux, mais il y a un air de Handel, enfin, il y a un opéra de Handel et un air particulièrement qui vous a bouleversé, c'est celui-là.
Scherza infida. Scherza infida. Oh
Philippe Jaroussky, vous avez tout de suite reconnu cette voix.
Ah oui, une voix inimitable.
C'est Bartoli.
C'est Cecilia Bartoli. Et moi, quand j'ai commencé à chanter, je l'ai découverte, on va dire, j'ai découverte quand j'avais 21, 22, avec justement le magnifique album Vivaldi qu'elle avait fait. Je l'ai énormément écouté et jamais, à cette époque-là, je me serais imaginé partager autant la scène.
Avec elle.
Avec elle, oui, bien sûr. C'est une des plus belles rencontres de ma carrière. Et une rencontre qui ne m'a évidemment pas déçu parce que on peut admirer quelqu'un artistiquement, et puis être déçu peut-être humainement, mais c'est évidemment pas le cas avec elle. C'est un exemple incroyable de bienveillance, de travail, de tout. Voilà, elle, quand on fait un opéra avec elle, on va dire que elle change complètement l'énergie qu'il peut y avoir sur une production. On a déjà envie de bien faire juste pour elle.
Mais c'est pour ça que je voulais vous la faire entendre dans cette air que vous aimez infiniment et qui est une sorte de fil rouge dans votre parcours musical,
oui.
Philippe.
Une frustration presque.
Oui, parce que vous savez que vous ne pouvez pas. Pourquoi une frustration?
Parce qu'en fait, donc c'est un extrait d'Ariodante de Handel. J'ai beaucoup chanté ces airs, je l'ai enregistré.
Ouais.
Je le mets souvent dans les récitals, tous les 3-4 ans, j'aime bien le rechanter. En plus, ça me permet de voir dans quel état, enfin, comment je le chante par rapport à avant, qu'est-ce qui a évolué. Par contre, le rôle est immense. Ariodante, c'est probablement le rôle écrit pour un castrat le plus difficile qu'ait écrit Handel. Et ça va au-delà de ce que je peux faire sur scène, malheureusement. Donc je chante cet air, mais pas le rôle en entier.
Et c'est grâce à cet air que vous avez fait la rencontre avec le castrat, justement, Giovanni Carestrini, qui est votre héros.
Oui, donc qui a créé cet opéra. Et on peut dire, Carestrini, je pense beaucoup avoir contribué avec le disque que j'avais fait à mes débuts à le faire connaître parce que on connaissait beaucoup à l'époque déjà un peu Farinelli évidemment, mais Carestrini est beaucoup plus un peu comme Caffarelli, le castrat type, c'est-à-dire le bad boy, le sale gosse
qui demande des cachets exorbitants,
voilà, issu d'un milieu très pauvre et qui a bien l'intention de profiter de son changement de statut. Il s'est même battu en duel et qui était d'une vanité absolument terrible, mais qui probablement avait une des plus belles voix qui n'ait jamais existé, tout simplement.
Philippe Jaroussky, moi je croyais vous surprendre, j'étais tellement fière de cette découverte. C'est un enregistrement, un des enregistrements, alors celui-là il date de 1904.
Exactement, oui.
Du dernier castrat.
Moreschi,
19e siècle.
Qui est un témoignage très précieux. Alors, ça peut peut-être étonner une partie des auditeurs de France Inter. On dit, c'est ça une voix de castrat. Alors, évidemment, l'enregistrement est très vieux. Le castrat n'était pas au sommet de sa carrière. Mais ce qu'on entend.
C'est le sanglot.
Ce qu'on entend, ce médium de la voix qui est beaucoup plus ténor.
Ouais.
On a l'impression d'entendre une espèce de caruso une octave au-dessus. Et c'est ça qui faisait la grande différence entre un contre-ténor comme je suis et un castrat. Ils utilisaient beaucoup plus la voix de poitrine, donc la voix de ténor, et ce qui leur donnait une puissance beaucoup plus grande. Et on le sent malgré évidemment la qualité un peu rude de cet enregistrement, on sent la puissance de cette voix et quelque chose d'une émotion qui vous prend aux tripes.
Ouais, le sanglot, c'est ce que
voilà,
je disais.
Voilà, du sanglot, de quelque chose de. Je dis souvent, moi, je m'imagine la voix des castrats un peu comme. Je le comparais à Maria Callas, c'est-à-dire qu'ils portaient en eux la tragédie de leur destinée, c'est-à-dire qu'on leur avait pas demandé leur avis. Dès leur enfance, on les castre. Et ils porteront ce drame aussi dans leur voix toute leur vie.
Mais alors, votre voix fascine autant que celle des castrats. Et on emploie souvent les mêmes mots pour parler de votre voix, pour définir votre voix. On parle de voix divine, voix des anges, voix céleste.
Oui, je pense que ce qui peut-être faire... on sait très bien que les castrats avaient des voix différentes, mais on peut dire que ma voix peut-être se rapproche de celle d'un castrat plutôt vers l'aigu. justement vers l'extrême aigu, où là, il y a quelque chose qui peut me rejoindre en tant que contre-ténor et castrat, c'est ce timbre qui reste proche de l'enfant. Et je crois que c'est ça qui touche les gens actuellement aussi. Dans les voix de contre-ténor actuelles, c'est quelque chose de préservé de l'enfance.
Parce que on a un peu regardé avec Hugo Comble, assistant de cette émission, ce qu'écrivaient les gens sur les réseaux sociaux quand ils vous ont écouté sur YouTube. Alors, vous faites fondre les cœurs, vous faites avoir des frissons le long de la colonne, vous faites pleurer de joie. Les gens sont émus, votre voix transporte.
Je crois que dans la voix, de toute façon, il y a quelque chose de, que ça soit une voix pop, d'ailleurs, ou une voix classique, il y a un rapport, affectif incroyable, beaucoup plus qu'avec les instrumentistes ou, j'ai des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas se passer de ma voix, qu'ils ont besoin de l'écouter tous les jours.
C'est vrai?
Oui, et j'ai du mal, des fois, je ne sais pas quoi faire de ça. Moi,
vous êtes gêné?
J'ai presque envie de dire en provocation que moi je chante d'abord pour moi, parce que ça me fait du bien à moi. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point la musique ou une voix en général peut avoir un impact sur quelqu'un d'autre.
Mais personne ne s'est jamais évanoui en vous écoutant.
Je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas, il faut aussi relativiser ça en disant que il y a des gens aussi qui détestent ma voix. Et ça, j'arrive aussi à le quantifier très bien. C'est-à-dire que finalement, on peut avoir un rapport très épidermique avec une voix.
C'est le corps.
Et maintenant, justement, après ces 20 ans de carrière, j'admets aussi beaucoup plus facilement que des gens n'aiment pas ma voix.
Quelle délicatesse, Philippe Jarouski. Verlaine et forêt. Dans votre bouche.
Oui, et j'ai toujours eu une fascination, d'ailleurs, depuis instrumentiste, pour la musique française du début 20e siècle, qui est une époque bénie. Debussy, Forêt, Saint-Saëns, Chausson, Reynaldo Hahn, que j'ai beaucoup chanté. Et ça a été un de mes premiers. Combat, on va dire, c'est d'essayer de faire accepter la voix de contre-ténor au-delà de la musique baroque. Quand j'ai fait mon premier disque Opium avec Jérôme Ducrot, il y a eu même, je crois, dans certains magazines, des gens pour, des gens contre, des gens qui disaient que je n'avais pas du tout ma place dans ce répertoire. Et moi, je ne voyais pas pourquoi, en tant que contre-ténor, j'étais pas capable d'exprimer un poème en musique. Et je me suis beaucoup battu. Et j'ai des projets dans le futur aussi de reprendre ce répertoire qui me permet aussi de chanter dans ma langue maternelle, et ça c'est très important pour un chanteur.
Et vous aimez particulièrement Verlaine, il faut le dire.
Ah oui, et Verlaine d'ailleurs c'est aussi un choc de collège, où j'ai une prof de littérature qui nous a donné un cours un jour sur Verlaine, sur le poème Prison, justement, d'une prison, et qui nous a expliqué à travers ce poème toute la vie de Verlaine, et ça a été un choc.
Une journée particulière sur France Inter.
Alors Philippe Jarouski, c'est la fin de l'émission, mais c'est toujours votre journée particulière, le 3 février 2000, donc vous chantiez pour la première fois un rôle en entier sur scène. Cette année-là, Britney Spears faisait un concert unique à Paris, Madonna sortait son album Music et Daft Punk chantait ça. One more time. Oh. Qu'est-ce que vous disiez, Philippe Jarouski?
Je disais que c'est encourageant parce qu'on entend toujours parler de Britney Spears, de Madonna et de Daft Punk. Donc voilà, et je suis aussi toujours là. Et c'est ce que je me disais il n'y a pas longtemps sur scène, 20 ans après, déjà d'être encore sur scène, c'est un cadeau. Et qu'il faut, il faut savourer ça. Et il faut, je prends d'ailleurs depuis que j'ai 40 ans, je prends tout ce qui m'arrive depuis un peu comme un bonus.
Vous êtes devenu un sage, c'est ça que vous êtes en train de me dire, Philippe Jarouski.
Peut-être un peu, mais en tout cas, se dire que 20 ans de carrière, c'est déjà. Je pourrais m'arrêter presque demain, c'est déjà pas mal.
Ah ben non, on veut vous entendre encore et encore. Alors en 2000, les Français votaient oui au référendum pour ramener le mandat présidentiel à 5 ans. On avait peur de la vache folle. Un Concorde s'écrasait au décollage, je ne sais pas si vous en souvenez.
Si, très bien, oui.
La France remportait la Coupe d'Europe de foot, très important. Et en 2000, alors que la France passait aux 35 heures, Moulinex, fleuron de l'électro, du petit électroménager, devenait l'un des symboles des licenciements économiques.
Ça ne fermera pas d'un coup, on partira petit à petit. Nous l'ont dit hier que ça s'en ira progressivement, tranquillement. Ils savent ce qu'ils font. Soi-disant qu'on va relancer quand même le nouvel aspirateur, mais on verra bien.
Comment est l'ambiance depuis deux jours à Falaise?
Oh ben, on ne se bat pas beaucoup à Falaise, ils sont résignés. C'est bien dommage, ça fait mal au cœur que tout le travail part à l'étranger. Et que va devenir la France? Un pays d'SDF? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne sait pas. Toujours, les patrons ils en veulent plus d'argent. Et nous, bon, on n'a déjà pas gros, on a que 6 200 par mois. Et on fait avec. Et on n'aura plus d'emploi.
Vous en attendez quoi de cette manifestation?
Je ne sais pas. Qu'il se passe quand même quelque chose, mais s'ils ont décidé que ça allait fermer, ça fermera.
Philippe Jarouski, ça n'a pas changé par contre, ça non plus?
Non, et évidemment, quand on est un artiste, c'est difficile, je trouve, d'être engagé politiquement ou de donner des leçons aux autres. Je trouve que souvent, quand les artistes s'y mettent, c'est pas toujours très heureux, parce qu'on est des privilégiés, les artistes. On a peut-être pris le risque au départ de prendre cette voie-là, mais voilà, moi, je me considère comme un privilégié. Je trouve que ce qui n'a pas vraiment changé, c'est malheureusement, c'est l'écoute. Il n'y a pas d'écoute et on voit bien en ce moment que c'est ça qui pose problème. C'est que je crois que les gens sont pas stupides, ils comprennent qu'il y a des choses peut-être à changer dans la société, mais il n'y a pas l'écoute. Et ça, cette déconnexion, j'ai l'impression qu'on a beau changer de président, de ministre, on ne s'entend pas, on ne s'écoute de moins en moins, et c'est pas d'ailleurs valable que pour la politique, c'est valable aussi dans nos vies de tous les jours. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus centré, évidemment, sur nos propres vies, sur comment montrer aux autres que nos vies sont formidables sur les réseaux sociaux. On s'enferme un peu. Je me faisais la réflexion il y a 10 ans. J'étais à Tokyo. Et je voyais tous ces personnes dans le métro regarder sur leur téléphone portable et ne pas regarder son voisin. Et je me disais, ça n'arrivera jamais en Europe. Et puis, vous voyez, on est en plein dedans. Donc, c'est un peu dommage, oui.
Vous parlez de politique, vous dites c'est difficile. Enfin, c'est pas forcément heureux de s'engager, d'être un artiste engagé. Et pourtant, vous vous engagez, vous, avec votre académie musicale. C'est un engagement et c'est un engagement politique. C'est que vous pensez qu'il faut démocratiser l'apprentissage de la musique et la culture.
Effectivement, c'est le meilleur engagement que j'ai pu trouver. C'est-à-dire que pendant des années, on m'a demandé, on m'a posé cette question en permanence à la télévision ou à la radio. Que faut-il faire pour démocratiser la musique classique? Et puis moi je disais, oui, je suis totalement d'accord, il faut démocratiser la musique classique. Et je faisais pas grand chose, j'allais chanter à Berlin, à Londres, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et tout à coup, je me suis souvenu de ce professeur de musique de 6e et je me suis dit, si lui il a pu changer ma vie, pourquoi pas changer la vie d'autres enfants?
Pour clore cette émission, Philippe Jarouski, encore un peu de musique avant de se quitter.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Ça donne envie de chanter, non?
Je sais pas, je crois que c'est une des voix qui me le fait le plus de bien.
Elle a?
Elle a tout.
Elle a tout. Merci Philippe Jaroussky d'avoir passé cette heure musicale avec nous. C'était un plaisir. Votre livre « Seule la musique compte » est publié aux éditions Papier Musique, c'est ça?
Oui.
Pour célébrer vos 20 ans de carrière, Warner Music a publié une anthologie qui regroupe de nombreux airs qui ont marqué votre carrière. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre et qu'il y aura sur le site internet de l'émission? Prochain concert.
Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Prochain concert au Théâtre des Champs-Élysées autour de Schubert, justement.
Oh, formidable.
Seul avec mon pianiste sur scène, Jérôme Ducrot.
C'est quand?
Et le 24 janvier. Et puis, beaucoup de choses aussi avec l'Académie, des tournées, du Handel et du Vivaldi, Donc, il y aura peut-être une chance que je rechante ce Vedro au Cogne Modiletto en bis.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, Alina Véronique de Saint-Pestou à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Clément Vuillet. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.